histoire locale. Histoire locale, la vie quotidienne et les événements dans le Tarn au cours des siècles passés. Bonjour à toutes et à tous. En 1693 et 1694, deux années terribles, environ 1 300 000 Français trouvent la mort. Presque autant que durant la Première Guerre mondiale, mais pour une population deux fois moindre. Alors, pourquoi autant de morts en cette fin de règne de Louis XIV? Bonjour, Aude Michaud. Bonjour, Stéphanie Corso.
Bonjour.
Vous êtes archiviste au service éducatif des archives départementales du Tarn à Albi et pour ce rendez-vous mensuel, vous allez évoquer ces années que l'on a appelées les années noires 1693-1694 et nous allons comprendre aujourd'hui grâce aux documents que vous avez étudiés.
Voilà, tout à fait. Donc, Joël Berker, lors d'une précédente émission, vous a présenté l'exposition actuellement aux archives départementales intitulée « Les caprices du ciel et de la terre par les acteurs de leur temps ». Donc, il a évoqué les différentes sources à notre disposition, témoignant de ces intempéries et bien plus souvent de leurs conséquences. Donc, les registres paroissiaux, les registres de notaires, registres fiscaux, autant de documents qui donnent à voir l'étendue des dommages et souvent du désespoir des populations lorsque le ciel n'en fait qu'à sa tête. Donc si le titre de l'exposition rend hommage aux acteurs de leur temps, c'est qu'il est toujours émouvant, même parfois même étonnant, de trouver au détour d'une série d'actes administratifs une note du rédacteur, le plus souvent curé ou notaire, acteur et témoin de l'histoire en train de s'écrire. Ainsi, cette note manuscrite de François de Laval, docteur en médecine et notaire royal à Pampelonne, rédigé a posteriori en préambule du cahier de l'année 1697, où il plante le décor et le contexte de l'époque.
Stéphanie Corso, donc, vous nous lisez cette note manuscrite.
L'an 1693-94 ont été des années accablées de fléaux et de malheurs. La guerre étant extraordinairement échauffée dans toute l'Europe, les maladies populaires si grandes dans notre royaume qu'il mourut une troisième partie du peuple, presque dans toutes les paroisses, et une disette aussi tellement grande que la plus grande partie mourut de faim, étant en obligation de brouter les herbes, manger les orties, et aussi plantes dès qu'elles commencèrent à sortir de terre dans le printemps. Le seigle se vendit en ce pays 24 livres le cestier, le froment 28 livres le cestier, le millet gros et les grosses fèves 50 livres la mesure, et la pipe du vin du pays, jusqu'à 25 écus. Les souches des vignes toutes mortes par la vigueur des deux hivers de 1694 et 1693, et l'année 1693, point de châtaigne dans laquelle année les fléaux commencèrent.
Alors ce texte nous apporte beaucoup d'indications, Aude Michaud.
Oui, déjà. Donc déjà, on apprend qu'il y a une guerre qui sévit dans toute l'Europe. Donc il s'agit sûrement de la Ligue d'Augsbourg qui éclate en 1688. Entre la France de Louis XIV, alors au sommet de sa puissance, et les alliés anglais, espagnols et hollandais. Cette guerre prend fin en 1697. Et donc, qui dit guerre, dit obligation de faire des stocks de grains pour l'armée au détriment des populations civiles. De plus, les impôts déjà très lourds vont augmenter considérablement pour financer cette guerre. Ensuite, on apprend que les hivers 1693 et 1694 ont été tellement rudes que les souches de vignes en sont mortes. On peut donc bien imaginer les températures extrêmement froides qu'ont dû subir la végétation, les populations et surtout les cultures de subsistance.
Alors, François de Laval, dans sa note, précise aussi qu'il n'y a point de châtaigne. Alors, par exemple, aujourd'hui, ça n'aurait pas tellement de signification, enfin, disons pas tellement d'importance, mais à cette époque-là, ça avait beaucoup d'importance.
Oui, tout à fait, parce que la châtaigne, en fait, jouait un rôle prépondérant dans l'alimentation humaine et animale. D'ailleurs, le châtaignier était surnommé l'arbre à pain. En plus, rappelons que l'auteur, donc, est de cette lettre et de Pampelonne, région où le châtaignier est roi. Une disette fait aussi rage dans le département, conséquence de la rudesse des hivers et du mauvais temps qui détruisent les cultures et donc mettent à mal les populations qui meurent de faim, au sens du terme. Pour les malheureux qui sont encore en vie, ils sont réduits à brouter les herbes.
Brouter les herbes? Alors, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'exagération, là?
Alors, on pourrait penser que l'auteur exagère, mais on retrouve ce fait marquant dans un autre témoignage, datant d'avril 1694, notamment dans le livre des comptes spéciaux des Trinitaires de Castres, où un frère écrit que
C'est un effet du très mauvais temps qui court présentement où la misère et la pauvreté est si grande qu'on assure que l'on a vu des gens à la campagne paître les herbes et amasser des chardons pour manger. Et moi, j'en ai vu amasser des orties dans notre propre jardin, aujourd'hui même.
Et ce frère a poursuivi en écrivant
« Que les pauvres nous accablent de toutes parts et notre plus grand regret est celui de ne pouvoir pas leur donner tout le secours nécessaire pour les empêcher de mourir de faim, ce qui arrive souvent singulièrement à la campagne, même dans les villes où le blé s'est vendu jusqu'à 18 livres le cestier et tout le reste des denrées à proportion. Dieu ait pitié de nous tous et nous garde du pire, ce qui est à craindre parce que l'argent est extrêmement rare. Les grains aussi, et nous sommes encore fort éloignés de la récolte. Dieu nous la donne bonne et abondante s'il lui plaît. »
Donc personne, évidemment, n'est épargné par cette disette. Et comme on peut s'en douter, les plus pauvres sont les premières victimes. La famine pousse souvent les gens à rechercher des moyens de subsistance loin de leur domicile, ce qui accentue le phénomène des mendiants ou des gens errants. D'ailleurs, on retrouve ces malheureux pauvres dans leur registre... dans les registres paroissiaux, comme par exemple dans ceux de Groyer, notamment dans celui de la paroisse de Saint-Projet, où le vicaire nègre écrit que
« Depuis le premier jour de la présente année 1694, jusqu'à ce jour, 11e mai, sont décédés dans l'hôpital de Groyer ou au four, ou par les rues, 49 pauvres, tous exténués de la faim ou gelés aux pieds par l'horrible froid de cet hiver. Je n'ai pu en écrire le nom et surnom de la plus grande part, parce qu'on les trouvait morts avant que j'en fusse averti. »
À la page suivante, il relate aussi que
« Depuis le jour susdit, 20 mai, jusqu'au 9e jour du mois de juin, sont décédées à l'hôpital ou ailleurs dans la ville 14 personnes dont le nom et surnom ne nous est pas connu. »
Donc les gens, en désespoir de cause, quittent les campagnes pour venir dans les villes, dans l'espoir de trouver un secours éventuel. Mais ils ne sont pas toujours bien accueillis. Par exemple, à Albi, les consuls ont décidé d'organiser, au mois d'avril 1693, une distribution de pain aux pauvres étrangers pour qu'ils retournent chez eux à la campagne. Les boulangers distribuent le pain eux-mêmes et seront remboursés par la communauté.
Alors, il y a aussi un exemple à Cordes, un exemple significatif.
Voilà, où on retrouve dans les délibérations du Bureau des pauvres, donc celui-ci datant du 25 mars 1693, une distribution de fèves cuites faite aux pauvres et aux familles nécessiteuses habitant cette ville, vu la grande nécessité et la grande pauvreté qui est commune et générale au temps présent. Et dans les délibérations qui suivent, il est mentionné que
cette distribution se fera tous les jours pendant le mauvais temps, et aussi longtemps que les ressources du bureau le permettront, sans y comprendre les pauvres de la campagne, auxquels il sera permis seulement de prendre la charité des particuliers habitants qui la leur voudront faire.
Donc la communauté ne peut donc aider que les pauvres de la cité, mais tolère la venue des pauvres de la campagne. L'affluence des mendiants est telle que les consuls de Cordes décident de créer un corps de garde constitué d'archers, au nom très significatif, les chassegus. Et ils ont pour mission de chasser les pauvres qui n'appartiennent pas à la communauté. Nous avons d'ailleurs trace de ces chassegueux sur la délibération du 3 juin 1693, où il est écrit
« Que l'archer du bureau aura soin de chasser de la présente ville tous les pauvres étrangers et empêchera qu'on en reçoive d'autres dans le dit hôpital à cause des maladies. »
Maladies qui sont, rappelez-vous, mentionnées par le médecin François de Laval et qualifiées par lui de « populaires ».
Alors, quelles sont ces maladies?
Alors, c'est en fait la typhoïde qui fait rage de l'automne 1693 au printemps 1694 et est décrite par des fièvres putrides, malignes, pestilentes avec atteinte intestinale, des taches abdominales, prostration, rêverie et assoupissement. Donc, la mauvaise nourriture due à la disette a effectivement favorisé les épidémies. Et comme depuis des siècles, quand les situations échappent aux populations, les élus du peuple s'en remettent au Seigneur et font appel à sa clémence. Dans les délibérations de la communauté de Gaillac, dès le 26 juin 1691, le premier consul propose à l'Assemblée de faire un vœu en raison des intempéries qui ravagent les récoltes. Le clergé et des représentants de la population sont chargés d'intervenir auprès de l'archevêque. Il est décidé de faire un vœu à perpétuité le 22 juin qui deviendra fête chômée. Le premier consul obtient l'autorisation de l'archevêque, mais devant les réticences du chapitre de Saint-Michel, le vœu est ajourné. Et il faudra attendre 6 ans pour qu'une nouvelle demande soit agréée par l'archevêque.
Alors, nous allons faire une petite pause musicale. Georges Brassens, dans son vaste répertoire, a aussi chanté la solidarité.
Elle est à toi, cette chanson. toi l'Auvergnat qui, sans façon, m'a donné quatre bouts de bois, quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain, quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, ô Père éternel.
Alors, Aude Michaud, vous venez de nous parler de la communauté de Gaillac. En 1691, le premier consul qui a proposé à l'Assemblée de faire un vœu en raison des intempéries qui ravagent les récoltes. Et donc, toujours à Gaillac, Alain Soriano, lui, historien à Gaillac, a relevé aussi pour ses études de documents quelque chose que vous allez nous relater.
Voilà. Donc, comme on disait, donc le premier consul, ils ont mis 6 ans à se décider. Et donc, en 1697, considérant que les années précédentes, la grêle a ruiné les vignes et que les quais ont été dévastés par une crue extraordinaire, que la ville n'arrive même plus à payer ses impôts, les consuls donc se décident à faire un vœu à Saint-François-Xavier dans l'église de Tartage.
Nous, Charles le Goût de la Berchère, archevêque d'Albi, conseiller du roi en tous ses conseils, faisons savoir qu'en l'an 1697, le dimanche 12 mai, les habitants de la ville de Gaillac ayant dessein de faire un vœu pour obtenir de Dieu par l'intercession de Saint François-Xavier une récolte plus favorable que les précédentes qui ont été détruites par la grêle et les orages, nous avons choisi ce 12 mai pour faire la cérémonie de ce vœu. On a commencé les litanies des saints qui ont été continuées pendant la procession. Ensuite, on a chanté les hymnes des confesseurs en l'honneur de Saint François-Xavier jusqu'à l'église de Saint-Jean et devant l'autel de la chapelle. Le maire, les consuls et les officiers de la ville ont communié. Puis le maire et mes consuls se sont agenouillés devant nous. Le maire a lu et prononcé le vœu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous, maires et consuls, parlant au nom de toute la communauté de Gaillac qui nous en a donné le pouvoir, persuadés que ce sont nos dérèglements qui nous ont attiré nos maux, dont votre justice nous a affligés dans nos biens, nous nous prosternons devant votre divine majesté pour implorer votre miséricorde. Et tous, pénétrés d'un grand regret de vous avoir offensés, résolus de vous être plus fidèles à l'avenir et confiants que vous aurez pitié de nos misères, nous avons recours à votre bonté par l'intercession du grand Saint François-Xavier, apôtre des Indes, dont vous vous êtes servi et dont vous vous servez encore pour faire de grands miracles. Espérant que nos prières soutenues par celles de ce grand saint pourront apaiser votre colère et que nous avons si justement irrité et vous amener à reprendre vos bénédictions sur nos champs, sur nos vignes et sur nos personnes, afin que nous ayons de quoi mieux vous servir.
Donc le vœu portant essentiellement sur l'organisation de messes et processions est renouvelé à l'identique le 9 avril 1758, justement à la demande du maire et des consuls, consternés par la grêle qui l'année précédente a ravagé le vignoble épargné justement depuis 1697.
Et ça, c'est une croyance qui a perduré très longtemps.
Tout à fait. Ce vœu a été respecté jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et de nos jours, encore de nombreux Gaillacois viennent toujours le célébrer le deuxième dimanche après Pâques. Et en parcourant les archives, on trouve d'autres processions mises en place après des intempéries désastreuses, comme à Cordes par exemple, où il est écrit dans la délibération du 18 mars 1693 «
a été délibéré d'une voix commune que tous les ans, les 10 jours au 1er de mars et 30e juillet à perpétuité, l'on fera une procession générale qui partira de l'église Saint-Michel pour aller au Saint-Crucifix, demander au divin, par l'intercession de Saint-Aubin, Saint-Abdon et Seine, de nous délivrer du fléau de la grêle.
En fait, le secteur de Corde avait été touché gravement par la grêle l'année précédente, comme le prouve la délibération du conseil de direction du diocèse d'Albi du 31 juillet 1692, où il est écrit
« Le dicteur de Castes a dit que Mgr de Roule, ancien premier consul de Corde, député par la communauté du dit Corde, serait venu exprès dans cette ville le jour d'hier pour donner connaissance à cette assemblée que lundi dernier, 28e de ce mois, sur la nuit close, tomba une quantité de grêle d'une grosseur extraordinaire, suivie d'un orage si violent dans l'étendue du consulat de Corde et des paroisses qui en dépendent, qu'il a emporté l'entière récolte des grains et du chanvre, ruiné entièrement leurs vignes, arraché et abattu tous leurs arbres, même les plus gros chênes et noyers, ce qui cause la ruine totale de cette communauté, non seulement par la perte de l'entière récolte de la présente année, mais parce que leurs vignes ne sauraient porter de raisins de plusieurs années, et qu'ils ne recueilleront à l'avenir aucune noix, ni aucun fruit, en telle sorte qu'à cause d'un dommage si extraordinaire, les taillables de leur communauté sont dans l'impuissance de payer les tailles de la présente année, ni même à l'avenir, si nos seigneurs des États ne leur accordaient quelque indemnité considérable.
Il faut préciser que pour nos auditeurs que les tailles étaient les impôts que l'on payait à ce moment-là.
Voilà.
Ne pas confondre, comme on est en train de parler d'agriculture, ne pas confondre avec la taille des arbres.
Oui, tout à fait, bien sûr. Et donc, bon, dans la suite du texte, on apprend aussi que les communautés de Pen et de Vaour ont subi pareil dommage. Et donc, on peut bien s'imaginer qu'au vu de la description, les dégâts ont des répercussions sur les années qui suivent. Donc, plus de noix, de fruits ou de vin, et même les glands pour l'alimentation des animaux. D'ailleurs, donc comme on le disait, il est mentionné déjà que les habitants ne peuvent pas payer leurs impôts. On comprend bien que les pauvres âmes de ce secteur se trouvent dans une situation assez critique et que le moindre accident peut les faire basculer dans une situation catastrophique. Malheureusement, comme on l'a vu précédemment, les hivers suivants sèment le désastre dans la région. Ce registre de délibération mentionne que des emprunts sont contractés par la communauté pour acheter des grains, les populations n'étant pas en état d'ensemencer leurs terres.
Alors, est-ce que vous avez trouvé dans d'autres documents des traces de cet orage de grêle ?
Tout à fait. En balayant donc les autres sources des archives, on retrouve de multiples traces de cet orage, et notamment une dans le registre des baptêmes de la paroisse de Saint-Barthélemy de Bournavel, qui prouve une fois de plus de la violence de ce phénomène météorologique.
Le 28 juillet 1692, à 10 à 11 heures du soir, fut trouvé Jean Flourac, fils d'Antoine et de Salvicombre, marié, de Bournazel, décédé, ayant été tué par la grêle qu'il fit à ce soir. Le même jour que dessus, 28 juillet 1692, décéda Cécile Besse, femme de Pierre Ardourel de Bournazel, âgée de 25 à 30 ans, ayant été tuée de la grêle qui fit ce soir, et submergée par les eaux qui fut trouvée le lendemain matin le long du ruisseau de Paudus, près de la métairie du sieur Berry.
Et donc on dit bien que les années se suivent et ne se ressemblent pas. Alors 1692, 1693, 1694 sont trois années qui mettent à mal la population tarnaise et française en général. Heureusement, 1695 est une année faste en ce qui concerne les productions agricoles, et même qui va réserver des surprises pas forcément très bonnes. Un auteur non identifié écrit d'ailleurs que
en l'année 1694, la famille et grande cherté des vivres étaient à Albi. On nomme cette année l'année du grand mauvais temps. Le blé froment passait 30 livres le cestier, et à peine l'argent à la main en pouvait-on trouver parce que l'année ci-devant n'avait produit que d'ivraies, peu de légumes, peu de fruits et peu de vin. Le mauvais vin se vendait 5 sous le quart. Tout le monde était dans les souffrances. L'année suivante fut grandement abondante en tout ce que la terre pouvait produire. Mais ceux qui avaient souffert à la faim voulurent manger amplement du fruit et du pain chaud. Cela leur creva boyau et en moururent grande quantité. Alors on allait les prendre morts dans les étables au faubourg de la ville, et on en mettait 8 ou 10 sur des charrettes pour les apporter dans des cimetières où on y avait fait de grands creux de la hauteur de 4 hommes debout. Cette même année se fit dans Albi une sédition de peuples souffrants. Il y en eut quelques-uns, des blessés et d'autres exilés hors du diocèse, et dans un jour le blé se rabaissa de 8 livres tournois par cestier, et dans la suite autant, et tout se rendit calme par l'abondance des grains que la terre produisit en l'année 1795.
ça a été vraiment des années catastrophiques. Hein. On le voit à ce grand nombre de morts.
Voilà, tout à fait. Donc en fait, si 1695 a été une année où la population a enfin pu manger en sa faim, ça n'a été que d'un court répit. Les années qui vont suivre amènent avec elles leur lot de froid excessif, de neige, d'été pourri, d'orages violents provoquant des crues, de périodes de sécheresse et tous les autres caprices météorologiques que l'on connaît. Et donc, avec le recul et surtout grâce aux travaux des historiens, on sait aujourd'hui que cet hiver 1693 fait partie de la décennie la plus froide que l'Europe ait connue et a engendré un taux de mortalité donc le plus important. En fait, de 1693 à 1695, 1,3 million de morts supplémentaires, selon Emmanuel Leroy-Ladurie, un des premiers historiens à s'être intéressé à l'étude du climat. D'ailleurs, il chiffre à 600 000 morts la catastrophe suivante, la grande famine de 1709, qui, paradoxalement, a plus marqué les esprits.
Alors moi, j'ai lu dans des archives de météorologie que cette période-là avait été appelée le petit âge glaciaire.
Tout à fait.
Ça avait été une période vraiment très très froide.
Tout à fait.
Alors, merci Aude Michaud et Stéphanie Corso pour toutes ces recherches de documents qui nous permettent de mieux comprendre les conséquences dramatiques de ces événements climatiques, jadis dans notre région. Alors, nous nous plaignons, nous, aujourd'hui, de ces dérèglements climatiques, mais, donc, comme je venais de le dire, là, ce petit âge glaciaire nous prouve bien qu'il y en a eu dans le passé. Et en ce moment, vous êtes en train de... Enfin, vous avez préparé, avec le service éducatif des archives départementales, une exposition avec Joël Berker, qui nous relate justement ces événements exceptionnels qui avaient eu lieu dans ces années-là. Vous pouvez nous en parler un petit peu de cette exposition ?
De l'exposition, oui, et aussi des ressources donc qui sont mises en ligne par le service éducatif. Donc en l'occurrence, sur cette période-là précisément, nous avons mis à disposition des enseignants une fiche document qui reprend justement ce petit texte dont tout à l'heure on évoquait un morceau, c'est-à-dire de Laval de Pampelonne, qui retrace justement fait état de ce contexte assez dramatique. Et donc, on a mis en ligne ce document. Les enseignants peuvent s'en saisir directement en classe. Et ensuite, donc, par rapport à cette exposition qui est présentée aux archives, donc jusque fin mars, début avril, nous allons aussi donc l'expérimenter, en tout cas la proposer aux enseignants, de la découvrir de manière un peu ludique, puisque c'est une exposition qui est très riche, très dense, et donc à travers le vécu de plusieurs personnages et de résoudre des énigmes, à savoir ces personnes, qu'est-ce qu'elles ont vécu dans des contextes différents. Donc là, on a évoqué ce contexte des années noires de 92-95, en gros, mais il y a d'autres périodes qui ont marqué l'histoire de notre département sur le plan climatique, météorologique, catastrophe naturelle, donc en l'occurrence la crue de 1766, ou encore les années 1709-1710. Essayer d'avoir une approche sur ces événements en découvrant comment les faits sont relatés par les personnes qui les vivent, qui souvent, comme nous aujourd'hui, trouvent que c'est extraordinaire et qu'on n'a jamais vu ça de mémoire d'homme. C'est quelque chose qu'on le trouve de manière récurrente dans les textes. Et puis ensuite, donc, une fois qu'on a vu les causes, quelles sont les conséquences sur les hommes? La famine parce que les récoltes sont ravagées. Donc justement parce que c'était des périodes où les nourritures, enfin en tout cas les ressources étaient essentiellement, les activités étaient essentiellement agricoles. Et puis les épidémies aussi, donc des conséquences graves. Et en articulant aussi, parce que c'est aussi un des aspects de l'exposition, c'est-à-dire qui témoigne de ces faits. Et on retrouve là, on a insisté tout à l'heure aussi sur les sources, en effet les registres paroissiaux, les registres de notaires, donc les curés, les notaires sont ces personnes qui souvent étaient les rares à savoir écrire dans les villages, et donc ce sont dans les registres paroissiaux ou dans les registres de notaires que l'on va trouver ces témoignages. Et là aussi c'est intéressant, s'interroger aussi sur la fiabilité de ces sources, est-ce qu'il y a exagération ou pas, enfin, est-ce qu'on est sur un travail de un témoignage sur l'instant, ou alors est-ce qu'on est parce qu'il y a aussi parfois des notes qui sont inscrites, mais après, quelques années après les événements. Donc cette question-là aussi, elle est intéressante à se poser. Et puis, il y a un aspect de l'exposition plus sur des phénomènes un petit peu extraordinaires, tels les tremblements de terre ou les éclipses. Et là aussi, donc, on va amener les élèves à s'intéresser à ces événements. Voilà. Et donc ça, de manière un peu ludique, parce que c'est un peu ce que l'on essaye de faire au niveau du service éducatif, c'est-à-dire faire passer des informations et on espère le goût pour les archives et pour l'histoire à partir de petits jeux ou en tout cas dans cet esprit un petit peu de découverte. Et donc là, on a été jusqu'au bout de cet esprit de découverte puisque le départ, c'est une énigme. Que s'est-il passé Martin, qui est jugé simple d'esprit, et par exemple retrouvé la jambe coincée sous un éboulement de terre, qu'est-ce qui lui est arrivé, ou Marie qui part à la recherche de son fils qui a disparu. Voilà, et on va suivre comme ça les péripéties de ces personnages dans des temps reculés.
C'est un aspect intéressant de la pédagogie, ça. C'est vrai, c'est une approche vraiment intéressante pour des jeunes qui trouvent que les archives sont peut-être un peu rébarbatives.
Il faut reconnaître que c'est pas forcément évident de prime abord d'aller vers les archives. Voilà. Donc il faut commencer, j'allais dire, c'est pas forcément à s'y intéresser, mais voilà, il faut comprendre que il y a un moment donné une information qui peut amener vers une autre, et petit à petit, et c'est ce qu'on avait exploité sur la dernière expo, en tout cas l'année dernière, l'exposition Écrire l'histoire, cette notion du puzzle, qui est de dire à un moment donné, parce qu'on a toutes ces informations qui s'imbriquent, et c'est là où finalement le tableau, l'histoire commence à se former, et je pense que c'est à ce moment-là où on commence à prendre goût, en effet, aux archives et à s'apercevoir que ça peut être sans fin. Voilà.
Bien, merci Stéphanie Corso, merci Aude Michaud. Nous allons nous quitter en écoutant Eilodon qui nous chante Miséria.
Dino cur plendo de fe, andro le carga, andro de fe, andro le carga, andro lo cari. Mi subeni la che lo stal, tu pende strade, punta si, mentre lo putra pegnal. Era duro lo spirito, se la trima.
Histoire locale, la vie quotidienne et les événements dans le Tarn au cours des siècles passés.